conférence privée Père Philippe, Saint-Joseph, le 13 novembre 84.
La dernière fois, j'ai essayé de vous rappeler l'importance de ce chapitre 6 dans Saint Jean sur le mystère de l'Eucharistie. Je reviens un instant sur ce que nous avions vu. Comprendre comment tout le mystère de l'Eucharistie est annoncé par Jésus dans la lumière du pain de vie. Je crois qu'au point de vue profond, c'est-à-dire qu'au point de vue contemplatif, c'est très important. Nous avons une attitude, j'allais dire, d'ordre souvent un peu pragmatique vis-à-vis des sacrements. On se sert des sacrements. Et c'est vrai, ils sont donnés comme des moyens pour nous sanctifier. Alors on s'en sert et on ne voit pas suffisamment que les sacrements sont pour nous un enseignement d'Église et un enseignement du Christ au niveau de la foi et donc qui doivent nous conduire vers l'aspect contemplatif. Tous les sacrements peuvent être vécus de deux manières, nous essaierons de le voir du reste, parce que je crois ça important pour nous. Nous devons nous laisser progressivement éduquer par l'Esprit Saint et faire que tout ce que nous avons vécu d'une manière un peu trop moralisante, nous devons le vivre d'une manière contemplative. Il y a une manière moralisante ou morale, si vous voulez, de vivre de l'Eucharistie. Dire, ah, c'est un excellent chrétien, il va à la messe tous les jours. On voit très bien l'application. Il reçoit régulièrement l'Eucharistie. Il va se confesser maintenant c'est tous les mois. Avant c'était tous les 15 jours. C'est un très bon chrétien. Et c'est vrai, on qualifie comme ça par le point de vue de la pratique comme on faisait avant. On dit, ah, c'est un excellent religieux, il fait toute la règle. C'était ce qu'on disait au Carmel, ça. C'était une religieuse merveilleuse, elle fait toute la règle. C'est-à-dire qu'elle ne demande jamais de dispense, vous voyez, c'était ça. Un bon religieux, c'est celui qui, comme un bon sportif, qui arrive toujours à l'heure due, n'est-ce pas, il fait toute la règle. Ça, c'est une attitude morale. C'est beau, c'est grand, c'est de faire toute la règle. Si à la fin de l'année, vous pouvez dire... J'ai jamais demandé une seule dispense. Si vous le dites, c'est gênant, tu vois, parce qu'on dira une espèce de pharisien. Ça ne va plus. Mais si vous ne le dites pas et que vous le faites, et que vous, c'est bien, c'est beau de faire ça. On tend vers quelque chose d'une vie régulière. C'est très bien. C'est pas une finalité. C'est un moyen. Faire la rêve, c'est un moyen. Recevoir les sacrements, si c'est uniquement pour les recevoir, il y a quelque chose qui ne va pas. L'Eucharistie doit être vécue pour nous d'une manière contemplative. Toute notre vie. Vous voyez, je pourrais dire la même chose à propos de la liturgie. La liturgie peut être vécue d'une manière moralisante, d'une manière uniquement de la vertu de religion, ou d'une manière contemplative. C'est la même chose. On peut voir les deux aspects. Si vous vivez de la liturgie comme, avant tout et en premier lieu, comme l'exercice de la vertu de religion, vous restez à un niveau moral. De morale religieuse, mais c'est un niveau moral. Et la liturgie est vécue de cette manière-là. On est mobilisé par Dieu, mobilisé par l'Église, pour réciter les heures canoniales, pour vraiment donner ce temps à Dieu. C'est très beau, on est mobilisé pour ça, il faut se le rappeler, c'est très vrai. Et puis il y a une manière contemplative de vivre de la liturgie. et vivre d'une manière contemplative de la liturgie, c'est justement la liturgie, c'est la parole de Dieu qui nous est donnée. Et cette parole de Dieu nous conduit à une certaine contemplation de Dieu. Et c'est pour ça qu'on pourrait voir pour le chant liturgique un aspect plus religieux, un aspect plus contemplatif. Parce qu'il y a deux aspects dans lesquels, de fait, le chant religieux, le chant liturgique prend sa dimension. Il peut être un chant d'une liturgie religieuse. Dans l'ancienne alliance, dans la première alliance, la liturgie était avant tout et premièrement religieuse. Elle avait un caractère d'une majesté, d'une grandeur unique. Ça, on ne peut pas nier. Vous savez bien, c'est ce que disent beaucoup d'exégètes, que l'épître aux Hébreux a été écrite justement aux prêtres chrétiens qui, au bout de quelques années, n'ayant plus la ferveur première de la conversion, se demandaient s'il ne fallait pas retourner un tout petit peu à la liturgie de l'ancienne loi, qui était beaucoup plus majestueuse, qui était beaucoup plus grande. Et donc, l'Épître aux Hébreux est écrite pour montrer que la liturgie chrétienne prend toute sa signification dans le sacerdoce du Christ. Et que toute la liturgie chrétienne, donc, est une liturgie qui ne peut pas se comprendre en dehors du sacerdoce du Christ. Or, le sacerdoce du Christ n'est pas premièrement un sacerdoce religieux. Il est un sacerdoce religieux, mais il n'est pas premièrement un sacerdoce religieux. Il est premièrement le sacerdoce du Fils bien-aimé du Père. Et donc, c'est premièrement un sacerdoce contemplatif. Qui est religieux, il ne faut pas opposer les deux, il faut les distinguer. Qui est religieux, mais qui est d'abord contemplatif. Alors, ça nous fait comprendre comment notre liturgie doit être premièrement contemplative. Elle doit être une liturgie qui exprime, qui manifeste notre contemplation et qui nous conduit aussi à la contemplation. Elle doit nous aider à vivre de notre contemplation, parce que justement, elle est la parole de Dieu. Nous recevons la parole de Dieu, ce n'est pas une liturgie que les hommes ont inventée. C'est une liturgie qui vraiment, grâce aux psaumes, et grâce au Magnificat, grâce à toutes les prières de la liturgie, c'est la parole de Dieu qui nous est communiquée. Et non pas quelque chose que nous avons inventé par nous-mêmes. Alors, parce que c'est la parole de Dieu qui nous est communiquée, nous pouvons en vivre d'une manière contemplative. On vit de la parole de Dieu d'une manière contemplative, au contraire, d'une manière moins contemplative, qui est d'une manière méditative. Alors, on médite. Tandis que la parole de Dieu vécue d'une façon contemplative est une parole qui nous lie et qui nous met en présence de Dieu. C'est pour ça que notre liturgie doit être vécue en présence de Dieu. Et c'est pour ça que la liturgie chrétienne, autant que possible, est vécue en présence de l'Eucharistie. Je me souviens, c'était des grosses batailles liturgiques, parce qu'il y a toujours des batailles liturgiques. Hein. Alors, quand c'est que sur le chant, ça va. Mais quand c'est sur la doctrine, c'est beaucoup pire. Hein. Alors, au seul choix, c'était sur la doctrine. Et on avait toujours des partisans de la liturgie très différentes. Alors, les liturgistes purs, il faut réciter l'office dans un lieu où il n'y a pas le Saint-Sacrement. Donc il faut que le Saint-Sacrement soit relégué dans une petite chapelle, et on n'a pas à rester l'office devant le Saint-Sacrement. Vous voyez comment on est en face d'une liturgie religieuse. Si je comprends que la liturgie est chrétienne, elle est centrée sur l'Eucharistie, alors à ce moment-là, ce n'est pas gênant d'avoir la présence de Jésus au milieu de nous, c'est plutôt aidant. Et de réciter la liturgie en présence, en face du tabernacle, ça nous aide beaucoup, parce que ça nous rappelle que notre liturgie est contemplative. Et alors, si elle est contemplative, il faut nécessairement qu'il y ait une certaine sobriété. Et c'est un petit peu comme la peinture de Frangelico. Moi, je rêve toujours à ça. Il faudra arriver à faire une liturgie Frangelico, je vous l'ai déjà dit, et c'est vrai, il faudrait avoir ça, une liturgie qui soit aussi fine et aussi légère que la peinture de Frangelico. Parce que c'est inouï, la peinture de Frangelico, comme au point de vue art chrétien, c'est un des sommets de l'art chrétien. Il y a une espèce de grandeur. Ou les Jacobins de Toulouse. Hein. C'est pas parce que c'est dominicain que je dis ça, mais parce que je trouve que c'est aussi quelque chose qui atteint quelque chose d'un sommet d'élégance, de finesse et d'aspect contemplatif. On voit très bien l'art du XIIe siècle, début du XIIIe, il y a une espèce d'élégance. Alors on n'a pas à revenir là-dessus, vous voyez, on n'a pas à imiter. Hein. Nous ne vivons pas au XIIe siècle, nous vivons au XXe siècle. Mais il y a une continuité. Il y a une continuité et il y a une reprise, toujours. L'expression réclame tout le temps quelque chose qui se renouvelle. Alors c'est là la très grosse difficulté, on le sait bien. Alors ça fait gémir et ça fait pleurer et ça nous aide. Parce qu'il faut beaucoup de gémissements pour que le Saint-Esprit puisse passer. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut beaucoup de gémissements. S'il n'y a pas des choses qui nous font souffrir, c'est forcé. Une liturgie d'une communauté, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça met 10, 15 ans. C'est ce que je disais l'autre jour avec Dominique Ponneau. Et il était tout à fait, on parlait de la liturgie, et il était tout à fait d'accord en disant ça, il faut chercher, il faut accepter que les premières années on cherche, sans du tout d'avoir d'a priori. Non. On peut glaner à droite et à gauche, mais c'est la liturgie de la communauté Saint-Jean. Et la liturgie de la communauté Saint-Jean, il faut le vivre. Il faut la vivre. C'est vrai, moi je pense au point de vue, si vous voulez, philosophique au point de vue théologique, mais c'est pas du premier coup, hein. On met du temps. Toute ma vie a été orientée pour essayer de comprendre le problème philosophique aujourd'hui, ou le problème théologique aujourd'hui. Et combien j'en ai parlé pendant des années avec le Père de Haut, sans savoir qu'un jour il y aurait la communauté Saint-Jean. Hein. Mais j'en parlais pour moi, personnellement, parce qu'au fond, c'est important, quand on est dominicain, de réfléchir sur le problème philosophique de l'époque. Et sur le problème théologique de l'époque. Et il faut des années et des années. Ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Il y a quelque chose d'analogue au point de vue de la liturgie. Il y a quelque chose d'analogue. Ça met du temps. Donc il faut accepter qu'il y ait des tâtons. On avance, on recule, on essaie de comprendre. Ce qu'il faut, c'est un très grand désir. Vous voyez, un très grand désir en priant le Saint-Esprit et la Vierge Marie de nous donner une liturgie qui soit celle que l'Esprit Saint et que Marie désirent pour la communauté Saint-Jean. Nous faisons ce que nous pouvons, notre bonne volonté, autant qu'on le peut. Quelquefois qui est très maladroite, ça n'a pas d'importance au point de vue de Dieu, puisqu'il regarde la bonne volonté. Nous regardons les résultats, mais Dieu regarde les intentions. Bon, il sait qu'on a tous, je crois, une bonne intention, une intention droite, un désir de découvrir ce que doit être cette liturgie. Et on a de la peine, c'est évident, c'est pas commode. Et notre liturgie doit être typiquement chrétienne, centrée sur la messe. Et la messe doit être le sommet, puisque nous avons un désir de doctrine, un désir de sagesse. Eh bien, il y a la sagesse de l'Eucharistie. Nous disons toujours nos trois sagesses. Eh bien, dans nos trois sagesses, il y a la sagesse de l'Eucharistie. Et la sagesse de l'Eucharistie doit être pour nous ce qui donne la signification profonde à toute notre liturgie. Notre liturgie doit être centrée sur l'Eucharistie. Autrement, elle n'est pas chrétienne. Elle retombera sur quelque chose qui sera... Non, elle doit être chrétienne, et elle doit être chrétienne, et à ce point de vue-là, elle doit être le lieu où nous coopérons ensemble, dans la charité fraternelle. C'est une coopération de charité fraternelle, c'est une prière commune. Et donc c'est le fruit d'une charité fraternelle très limpide, très pure, où on dépasse ses sympathies, ses antipathies. Ce qui est très difficile pour un artiste. On dépasse les antipathies, les sympathies, les antipathies, surtout les antipathies, mais aussi les sympathies, parce que les sympathies, ça risque quelquefois, vous voyez, d'avoir, si on a une belle voix, si on a une voix, alors on écrase, on dit, il n'y a que moi. C'est ça, les sympathies, n'est-ce pas ? La sympathie par rapport à nous. Les antipathies, c'est par rapport aux voisins, c'est évident. Alors, on voit très bien qu'il y a des voix qui nous énervent, et la Providence a voulu qu'on soit juste à côté. Très bien, c'est merveilleux ça. On va supporter ça, on va essayer de pouvoir harmoniser notre voix avec celle du voisin. S'il chante faux, on aura la ressource de dire au chapitre qu'il ne doit pas chanter trop fort parce qu'il chante faux. Mais peut-être c'est parce qu'il nous agace terriblement. Mais ça c'est autre chose, ça c'est Dieu qui le voit, tu vois. Mais on dira que s'il chante juste et qu'il nous agace, c'est très ennuyeux. Parce qu'on n'a pas la possibilité de dire qu'il chante faux. On doit rester dans la vérité et on doit supporter une voix qui est désagréable. Il y a des voix justes qui sont désagréables. Hein? On le sait. Et il y a des voix fausses qui sont agréables. C'est curieux. Ça, c'est un très grand mystère. Ça. Alors, on doit fusionner les voix, parce que les voix doivent se fusionner dans l'unité pour que la charité fraternelle soit ensemble. C'est un exercice de charité fraternelle qui monte vers Dieu. Il y a un exercice de charité fraternelle qui appelle la lumière de Dieu pour être contemplative, pour être dans un sens de contemplation. Et la prière liturgique devrait nous mettre dans une attitude de réceptivité à l'égard de l'Esprit-Saint. Ce n'est pas toujours ce qui arrive. Forcément, du reste, ça met du temps. Parce que c'est collectif, c'est communautaire, plus exactement, c'est communautaire dans la charité fraternelle, et ça doit faire cet appel, et ça doit être orienté vers le mystère de l'Eucharistie. Alors, je continue le mystère de l'Eucharistie, parce que le mystère de l'Eucharistie doit être vécu d'une manière contemplative, silencieuse, et d'une manière liturgique. D'une manière silencieuse. Alors c'est le grand chapitre 6 qui nous apprend à vivre du mystère de l'Eucharistie de façon silencieuse. L'Eucharistie nous donne et nous enseigne le silence de Dieu. Je vous parlais des silences de Dieu, hein, point de vue biblique. Et je retrouve ici, j'ai pensé au mystère de l'Eucharistie. C'est quand même très extraordinaire que Dieu ait voulu nous donner comme testament son silence. Puisqu'il se donne sous la forme de pain. Donc, il se donne dans le silence. Et l'Eucharistie nous fait entrer dans le grand mystère du silence de Dieu. Et là, c'est l'Eucharistie qui est vécue de façon contemplative. C'est pour ça que nous devons aimer les adorations du Saint-Sacrement. Nous devons aimer de faire notre oraison auprès de Jésus dans l'Eucharistie. Et demander à Jésus dans l'Eucharistie de nous apprendre à vivre ce silence de l'oraison. Ça doit nous aider beaucoup, surtout quand de fait c'est plus aride, c'est plus dur, que Dieu nous fait entrer dans son silence. Alors, le silence de Dieu peut être vécu en aridité, et le silence de Dieu peut être vécu en plénitude d'amour. Et l'Eucharistie doit nous apprendre à vivre de ce silence de Dieu en plénitude d'amour. Transformer l'aridité en plénitude d'amour. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Toutes les aridités que nous pouvons connaître, toutes les difficultés que nous pouvons connaître dans l'oraison, dans le fait de rester un peu, de vouloir faire le silence, hein, le sevrage des sens externes, le sevrage de nos raisonnements, le sevrage de la philosophie, le dépassement de tout cela. Parce que c'est vrai, on pourrait continuer à faire de la philosophie le matin dans l'oraison, n'est-ce pas ? Alors à ce moment-là, il n'y aura aucun sevrage, n'est-ce pas ? On serait dans des lumières extraordinaires et merveilleuses, mais il faut le faire, le sevrage, il faut dépasser, il ne faut pas s'arrêter à la philosophie, il ne faut pas s'arrêter au raisonnement, il ne faut pas s'arrêter à la lecture, à la méditation, il faut aller plus loin, il faut aller plus loin. Alors à ce moment-là, on découvre une présence invisible de Dieu pour nous. Ça peut être rude, ce dépassement, jusqu'au moment où la présence de Dieu nous est donnée. Et l'Eucharistie, c'est la présence de Dieu qui nous est donnée. Et une présence silencieuse, aimante. Et ça, je crois beaucoup que si nous sommes dans l'aridité, c'est peut-être un signe de Dieu pour que nous allions tout proche du mystère de l'Eucharistie, pour transformer cette aridité dans ce don d'une présence aimante et silencieuse. Jésus a voulu terminer toute sa vie de prédicateur en nous donnant son silence. Et il nous a donné son silence par l'Eucharistie. C'est quelque chose de très grand, ça. Et donc, il faut bien comprendre cette dimension contemplative de l'Eucharistie. Et cette dimension contemplative de l'Eucharistie, c'est le sacrement de la présence. Le don est nécessaire à la présence. Il n'y a pas de présence véritable et aimante sans le don. Or, Dieu se donne pleinement et totalement dans le mystère de l'Eucharistie. C'est Jésus qui se donne, et c'est le Père qui se donne avec son Fils, et c'est l'Esprit Saint qui se donne. C'est le sacrement du don. Parce que c'est le sacrement de la présence. C'est le sacrement du don pour être le sacrement de la présence, si vous voulez. Une présence silencieuse, une présence obscure, mais une présence d'amour. Il faut apprendre auprès de l'Eucharistie à découvrir ce silence d'amour de Dieu pour nous. Apprendre que Dieu veut nous conduire à ce silence. Pourquoi ? Pour que nous ne soyons plus qu'amour. L'amour réclame le silence. Et le silence vécu dans la foi et dans une foi vivante nous aide à découvrir l'amour, nous aide à découvrir le don. Et le don, c'est l'amour dans ce qu'il y a de plus personnel. Alors, découvrir ce don qui nous est fait du Fils bien-aimé, ce don que le Père nous fait de son Fils. Découvrir ce don pour vivre de cette présence et aimer cette présence. Et comprendre ce que Jésus lui-même nous dit, parce que je crois que c'est cela que nous devons saisir. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Voyez bien que ceci ne peut être vécu que d'une manière contemplative. Demeurer en Jésus et lui en nous. Et ceci, c'est l'effet direct et immédiat du sacrement de l'Eucharistie. Et Jésus le montre comme dans son aspect mystique, puisqu'il ne parle pas encore du sacrement. Ma chair est une vraie nourriture. Par le sacrement, je peux dire que la chair du Christ est une vraie nourriture. Et je peux le dire même avant le sacrement, puisque Jésus l'a dit. C'est merveilleux. Ce qui fait que, au point de vue contemplatif, je vis du sacrement de l'Eucharistie, même si sacramentellement je n'en vis pas, j'en vis divinement. Pour montrer que le sacrement sera une réalisation de cette parole prophétique. Et cette parole prophétique a été dite avant, pour que nous puissions en vivre toujours, avant. C'est tellement important, ça, de vivre du mystère de l'Eucharistie, pas seulement sacramentellement, mais mystiquement. Et en vivre mystiquement, c'est justement de comprendre que Jésus a voulu nous donner cet enseignement sur l'Eucharistie avant d'instituer l'Eucharistie. Alors, nous pouvons, au point de vue de notre horizon, de notre contemplation, comprendre que nous recevons Jésus qui se donne. Nous le recevons au plus intime de notre cœur pour demeurer avec lui. Et là, nous avons la certitude que nous demeurons en lui et que lui demeure en nous. Nous savons par la foi, vous allez me dire, je n'ai pas besoin de l'Eucharistie pour le savoir. C'est très vrai, vous n'avez pas besoin de l'Eucharistie pour le savoir. La parole de Dieu me le dit, et dans ma foi et dans mon charité, je le sais. Je sais que la charité me permet de demeurer dans le cœur de Jésus. Et je sais que Jésus demeure en moi, dans le sacrement de charité. Je le sais. Donc je n'ai pas besoin. Mais si la parole de Jésus nous est donnée, c'est pour qu'il y ait une efficacité nouvelle. Et donc que nous puissions nous appuyer sur sa parole. Et nous appuyant sur sa parole, aller plus loin dans cette manière de demeurer dans le cœur du Christ et cette manière pour que le Christ demeure en nous. Et c'est pour ça que ces paroles sont si précieuses pour nous. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé et que moi je vis par le Père et pour le Père, ainsi celui qui me consomme, qui me mange, vivra lui aussi par moi et pour moi. Je vous ai dit, hein, la traduction du dia doit se faire par et pour. Et je crois que là le Père Feuillet a tout à fait raison, qu'il faut prendre le par et le pour. En français, on est obligé de mettre les deux. Parce que par ne suffit pas et pour n'indiquerait pas non plus uniquement. Vous voyez, les causalités efficientes, causalité finale. Ça, c'est merveilleux, parce que dans l'ordre divin, les deux se tiennent. Les deux se tiennent. Alors, il nous est donné et en même temps, nous vivons pour lui. Alors, vous voyez que là encore, c'est merveilleux de vivre de l'Eucharistie de cette manière, dans notre raison du matin. Nous habituer à vivre de l'Eucharistie dans notre raison du matin, puisque nous la faisons près du Saint-Sacrement. Et comprendre tout de suite qu'il y a cette manière de demeurer, cette manière de vivre tout entier relatif au Christ, et de laisser Jésus s'emparer de nous, pour qu'il y ait cette unité. Tel est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères, et ils sont morts. Celui qui consomme ce pain, qui mange ce pain, vivra à jamais. Donc, nous devons vivre du mystère de l'Eucharistie d'une manière contemplative. Et nous devons vivre du mystère de l'Eucharistie d'une manière sacramentelle. Les deux. J'oppose pas, je distingue. Vivre de l'Eucharistie de façon sacramentelle, vous voyez bien ce que je veux dire. C'est d'une manière liturgique et sacramentelle. Alors là, nous entrons dans la grande action du mystère de la Passion. La Passion, en tant que Passion, ce n'est pas contemplatif, hein, comprenez bien. En tant que passion, la passion est portée par la contemplation du Christ. Elle est vécue dans la contemplation du Christ. Mais le sacrifice même de Jésus sur la croix n'est pas la contemplation du Fils bien-aimé. C'est une action et c'est une passion. Il y a les deux. Jésus offre et Jésus bâtit. Alors c'est porté dans la contemplation, et c'est pour ça que nous ne pourrons vivre du sacrement de l'Eucharistie d'une manière contemplative que si dans notre raison, nous nous habituons à vivre du sacrement d'une manière contemplative. Si on ne vit pas du mystère du pain de vie d'une manière contemplative, on ne vivra jamais le mystère de l'Eucharistie d'une manière contemplative. Pourquoi tant de messes sont vécues uniquement du côté actif et ne sont pas vécues d'une manière contemplative? Parce que, justement, on n'a pas suffisamment vécu du mystère du pain de vie. On n'a pas suffisamment vécu du mystère de l'Eucharistie d'une manière contemplative, dans une foi contemplative. Alors, à ce moment-là, on considère que c'est la liturgie de la messe, c'est la liturgie de l'Eucharistie, c'est une action. Je me souviens très bien, je ne dis pas c'est qui, parce que c'est quelqu'un qui vit encore, et qui disait avec beaucoup d'autorité, parce qu'il en avait, la messe, c'est une action, ce n'est pas une contemplation. La liturgie, c'est une action, ce n'est pas une contemplation. Matérialitaire, il a raison. Matériellement, c'est vrai. La liturgie est une action, ce n'est pas une contemplation. L'Eucharistie, la messe, c'est une action, ce n'est pas une contemplation. Le Christ crucifié, c'est une action, c'est un sacrifice, c'est une passion. Action et passion se tiennent. Mais attention, sacrement de la foi. Alors, parce que c'est sacrement de la foi, c'est sacrement de la foi et amour. Donc de la foi liée à l'amour, c'est le sacrement des vivants, c'est donc lié à l'amour. Si c'est la nourriture de la foi et la nourriture de l'amour, ça demande d'être vécu d'une manière contemplative. Oui, ça demande. Contemplative. Oui, ça demande d'être vécu d'une manière contemplative. Ça fait partie essentielle de notre vie théologale. Je ne peux pas la couper. Je ne peux pas dire, à moi, j'aime mieux la contemplation. Oui, c'est comme quelqu'un qui dirait, la messe est trop actif. Oui, c'est beaucoup trop actif. J'aime mieux aller faire oraison dans mon coin pendant ce temps-là. J'ai beaucoup plus de grâce. J'ai des grâces extraordinaires quand je suis seul faisant en raison, tandis que la messe, non. Je suis toujours distrait, j'ai toujours un voisin. C'est très gênant. Mais... Puis, ben forcément, on doit se tenir debout, on doit se tenir à genoux, on doit se tenir assis, on doit se tenir. Donc, il y a une gymnastique constante, ça ne va pas. Donc, c'est pas contemplatif du tout. C'est comme le notaire. C'est vrai tout ça, il faut bien se le dire, le conditionnement est comme ça, le conditionnement est fait que quand je suis seul à pouvoir prier, ben, c'est quand même plus aidant que lorsqu'on prie en communauté, que tout d'un coup il y a un banc qui tombe, n'est-ce pas, il y a quelque chose comme ça, il y a quelqu'un qui se demande s'il se réveille ou pas, il a l'air de dépasser. Bon, c'est vrai qu'il manque... un recueillement qu'on voudrait très intense à ce moment-là, on voudrait un recueillement très très intense. Et ce recueillement n'existe pas tout le temps, parce que la charité fait qu'on doit se supporter. Et dans la charité, on doit supporter le non-recueillement du voisin, alors que nous, nous sommes à la 8e demeure, et que le voisin, il est encore à se remuer pour ne pas dormir. Alors, on doit le supporter, ça fait partie. De ce que représente la prière liturgique. La prière liturgique, elle est comme ça. On ne va pas mettre devant tous ceux qui se remuent pour ne pas dormir, un peu plus loin, première demeure, deuxième demeure, troisième demeure. L'avantage, je suis toujours au bout, donc je suis toujours dans la 8e demeure. Alors, on ne peut pas faire ça. Non, non, on est lassés ensemble. La charité fraternelle, qui est un acte très éminent d'amour, fait qu'on se porte les uns les autres. Et qu'on doit se porter les uns les autres. Et on doit vivre le mystère de la messe et le mystère de la liturgie d'une manière contemplative. On y arrive progressivement. Parce que les deux sont liés. Jésus vivait le face-à-face avec le Père pendant la Passion. Il vivait le face-à-face avec le Père. Donc il a vécu la croix portée dans sa contemplation et assumée par sa contemplation et enveloppée de sa contemplation, de ce feu divin qui brûlait tout. Eh bien, il nous en donne l'exemple. Nous devons vivre le mystère de la messe de la même manière, d'une manière contemplative, en étant lié profondément à la contemplation de Jésus et de Marie, pour que tout en nous se laisse attirer par le Père. Et nous devons en même temps vivre l'action de la messe. C'est vrai, c'est une action. C'est-à-dire qu'on doit s'offrir. On doit exercer la vertu de religion. Et donc, s'offrir. Et si la liturgie implique certaines attitudes, on les fait avec amour. Et si on les fait avec amour, le désir de notre contemplation ne sera pas diminué par ces diverses actions religieuses. Et même par le chant. Celui qui chante, normalement, ne peut pas être en acte d'extase. Ce serait difficile. Celui qui chante doit accepter d'être dans tout entier présent à son chant. C'est bien évident. Alors, il dira, ça m'enlève ma contemplation et mon silence contemplatif. Non, ça ne l'enlève pas. Si on le fait avec amour, et si on le fait parce que, de fait, l'Église nous demande de le faire. C'est un acte d'obéissance, la prière liturgique. Et nous faisons comme un acte d'obéissance. Et alors à ce moment-là, ça ne supprime rien du tout. Ça peut être supprimé le sentiment que nous avons, mais pas la réalité. Jésus souffrait à la croix. Et quand il était dans la contemplation pure, il ne souffrait pas. Il était dans la joie. Et que nous soyons liés à la souffrance du Christ durant l'Eucharistie, que nous soyons liés à l'agonie du Christ dans notre prière liturgique, très bien. Ça fait partie de la prière liturgique, ça fait partie de la messe. Et nous devons accepter cela. Autrement, nous aimons mieux le sentiment que nous avons de notre contemplation, du repos auprès de Dieu, qui est quelque chose de purement subjectif, à la grande réalité objective qui est de continuer et de vivre le sacrifice du Christ. Et de le vivre pleinement, et de le vivre vraiment, en faisant que toute notre action d'offrande de notre vie, puisque Jésus a offert sa vie à la croix, d'offrande de toute notre vie se passe dans le prolongement de l'offrande du Christ. Alors à ce moment-là, la liturgie de la messe prend une dimension et une profondeur unique. Parce que c'est la contemplation et l'offrande de tout nous-mêmes. Et par la vertu de religion, c'est toute notre sensibilité, tout nous-mêmes qui remonte vers Dieu et qui est offert à Dieu. Je sais que c'est difficile. C'est pour ça que, de fait, l'Église demande des exercices différents. Il faut qu'il y ait des moments de pur silence et de pure contemplation. C'est absolument nécessaire et c'est primordial. Il faut que petit à petit, cette contemplation soit suffisamment forte pour porter tout ce que représente l'action liturgique, tout ce que représente le mystère de l'Eucharistie vécu d'une façon sacramentelle, donc comme une action liturgique. Oui, les exercices sont là pour nous apprendre et nous éduquer à être suffisamment dociles au Saint-Esprit. Et il faut le faire pour nous, pour ensuite éduquer le peuple de Dieu. Éduquer le peuple de Dieu à assister à la messe. On ne l'éduque pas assez. Vous regardez comment on vous a éduqué à assister à la messe. Hein. On ne l'éduque pas assez. On n'éduque pas assez que la messe devrait être pour tous les chrétiens un moment merveilleux de rencontre avec Dieu et avec le Père. Et donc pour tous, avoir une très grande soif de contemplation. Si la messe était ça, on aurait des moments de silence avant la messe et après la messe. On aurait des moments de silence dans sa journée pour donner au mystère de l'Eucharistie toute sa signification. Donc, comprenons bien cela pour nous et pour ceux que nous devrons éduquer ensuite. Et même si nous ne les éduquons pas explicitement par la parole, du fait même que nous les portons dans notre cœur, nous les éduquons. Puisqu'il y a l'unité du corps mystique. Donc nous devons essayer de vivre ce mystère de l'Eucharistie de cette manière contemplative, unie à la contemplation de Jésus, et d'une manière active en offrant notre vie, et d'une manière liturgique en faisant que cette action rayonne sur toute notre sensibilité, sur toute la communauté, et que tous nous soyons offerts en même temps que Jésus, et que nous puissions vraiment donner notre vie avec Jésus. L'Eucharistie, c'est le sacrifice de la croix. Il faut toujours se le rappeler. Et donc, il doit être vécu comme le sacrifice de la croix avec Marie, dans le mystère de la compassion. Sacrifice d'amour, sacrifice contemplatif du Fils bien-aimé. Ou alors, toute notre vie est offerte et nous ne gardons rien pour nous. Et nous répétons durant la messe cette offrande. On l'a dit au moment de la consécration, c'est bien évident. On ne peut pas vivre du sacrement, on ne peut pas vivre de la consécration sans s'offrir en même temps que Jésus. Sans dire que toute notre vie lui est donnée. Sans être dans cette attitude d'extrême pauvreté de celui qui n'a plus rien à lui. C'est en ce sens-là que ça nous éduque merveilleusement et d'une manière efficace, puisque c'est un sacrement. Il réalise ce qu'il signifie. Et donc, si nous le vivons, il nous met vraiment dans le mystère de la croix. Vous voyez, on a quelquefois, n'est-ce pas, de ces rêves de dire « si j'avais vécu le mystère de la croix du Christ, j'aurais compris ». Bien, nous devons nous dire que dans la foi et dans l'espérance et l'amour, nous vivons le sacrement du Christ. Évidemment, nous avons plus de peine parce que nous ne le voyons pas. Mais Marie nous est donnée pour que nous puissions le vivre. Et alors nous devons vivre ce sacrement de l'Eucharistie chaque jour pour que, au moment même où on vit du sacrement de la messe, nous soyons totalement offerts à Dieu. Essayez de faire un acte de charité, comme disent les théologiens, un acte parfait de charité. Si on mourait immédiatement après la messe, on irait directement au ciel. La messe est faite pour ça, c'est le viatique. C'est pour aller directement au ciel. Alors, il faut le vivre comme ça. C'est-à-dire, vivre avec cette volonté profonde de donner toute notre vie. Alors, s'il y a eu telle ou telle petite difficulté, vous voyez bien, s'il y a eu telle ou telle petite difficulté, telle ou telle petite amertume, tel ou tel petit repli sur soi, telle ou telle petite blessure, eh bien, ça doit être complètement dépassé dans l'offrande totale de notre vie. C'est au cœur de notre journée. Hein. C'est pour ça que nous avons voulu que la messe soit à midi. C'est au cœur de notre journée. Et ça doit prendre vraiment toute notre vie. Alors, c'est le point de départ le matin et puis le terme le soir, c'est bien évident. Il faut que la messe soit pour nous au cœur de notre vie, avec ce point de vue de l'offrande totale de tout nous-mêmes, au moment de la consécration, au moment de la communion. Demander à Jésus de prendre possession de nous-mêmes, complète. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. À ce moment-là, nous pouvons le dire en toute vérité. Si nous vivons le mystère de la messe dans la foi, l'espérance et l'amour, nous pouvons dire ça en toute vérité. Jésus vient pour cela. Il vient pour nous déloger de nous-mêmes et lui prendre toute la place. Et être là pour nous transformer en lui. Nous donner son sacrifice pour que ce soit notre sacrifice. Nous donner tout ce qu'il a offert au Père pour que par lui, nous puissions offrir également tout ce que nous sommes. Jésus a voulu que le don de sa chair et de son sang se réalise à travers le sacrifice de la messe, à travers la scène. Ça, c'est la réalisation concrète pour nous, à travers le sacrement. Et la double consécration exprime bien, selon toute la grande tradition, le mystère du sacrifice, le mystère que Jésus a vécu à la croix. La La communion se termine en action de grâce. J'en reparlerai la fois prochaine, mais c'est important de comprendre que l'Eucharistie, c'est le sacrifice, c'est l'action de grâce. Oui, la richesse, hein, présence, sacrifice, action de grâce. Et sommet de toute notre prière liturgique, et donc sommet de toute notre charité fraternelle. C'est dans l'Eucharistie que se noue toute notre charité fraternelle. Alors, l'action de grâce. L'action de grâce, c'est une prière contemplative. C'est tout remettre à Dieu pour que Dieu prenne tout. L'action de grâce, c'est nous effacer en face de l'amour de Dieu qui doit tout prendre. C'est nous effacer en nous offrant. On ne peut pas vivre l'action de grâce sans être totalement offert gratuitement. Totalement brûlé, le grain d'encens qui brûle, l'action de grâce. On brûle son temps. On est là présent, on brûle son temps. Et c'est vrai, c'est ce qu'on doit faire. On doit brûler du temps pour Dieu. Alors on brûle le temps pour Dieu dans l'oraison et particulièrement dans l'action de grâce. Dans l'action de grâce, on doit tout faire pour laisser Jésus prendre toute la place. C'est lui qui transforme notre cœur en son cœur. C'est lui qui transforme tout ce qu'il est. C'est lui qui transforme tout ce que nous sommes en lui-même. Et donc, il se donne pour réaliser cette unité avec lui et faire que tout ce qu'il vit, il désire que nous le vivions. Tout ce qu'il a vécu à la croix, ce qu'il vit éternellement, il veut que nous le vivions. Et l'action de grâce doit, normalement, être l'achèvement du mystère de l'Eucharistie. L'Eucharistie s'achève dans l'action de grâce, dans cette remontée vers Dieu et dans ce désir d'une œuvre commune avec Jésus, être un avec lui, pour glorifier le Père. Puisque toute la croix, c'est la glorification du Père. Par l'Eucharistie, nous voulons vivre ce même mystère, glorifier le Père, en étant tout entier, présent, pour lui, par Jésus et en lui, en étant présent, et en lui donnant, autant que nous le pouvons, tant que nous en sommes capables, tout ce que nous sommes, pour n'être plus que transformés en lui. C'est ça la meilleure des actions de grâce, c'est de se donner totalement à Jésus pour que Jésus fasse de nous ce qu'il veut. Et alors si de fait, il y a telle ou telle difficulté qui se présente à nous et que nous savons que cette journée sera particulièrement pénible, ou qu'il y aura telle ou telle difficulté, on lui offre ça. Et c'est brûlé dans l'action de grâce. L'action de grâce doit nous aider à porter tous les obstacles que nous rencontrons dans nos journées, pour que tout soit offert et qu'il n'y ait plus rien pour nous. Et c'est pour ça qu'en toute vérité, dit la parole de Saint Paul, nous pouvons la prendre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est Jésus qui prend possession de tout nous-mêmes pour que nous puissions être action de grâce, c'est-à-dire le remercier, lui dire que tout vient de lui et que tout retourne vers lui. Saint-Esprit, par l'intercession du cœur douloureux et immaculé de Marie, vous bénisse et vous garde à jamais.
Amen.